partout, à chaque instant, la société, les différentes instances de pouvoir, les différentes instances de contrôle et de surveillance sécrètent ces jugements normatifs, ces jugements normalisateurs ou disqualifiants par rapport à la norme.
Alors que les législateurs sont une assemblée, en principe, ouverte à n'importe qui peut s'y faire élire, et en tout cas n'importe qui peut assister aux séances du législateur réuni, enfin c'est du moins ce qu'on dit, les normalisateurs, eux, sont dans l'ombre.
Oui, ils sont à la fois en plein jour et dans l'ombre. Ils sont en plein jour dans la mesure où nous sommes tous normalisateurs les uns par rapport aux autres. Et ils sont dans l'ombre parce que finalement, c'est vrai que les grands clivages normatifs, les grandes exigences de normalisation, les grands critères de normalisation, les appareils qui permettent d'éliminer un individu, de le disqualifier, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des gens, entre guillemets, compétents. Ça va être des gens qui sont placés, tapis, là, dans un coin de l'institution, qui vous guettent, qui font des dossiers et qui décident, dès que vous avez 7 ans, que vous n'êtes pas bon pour les mathématiques, que vous êtes plus que doué pour la musique, etc. Et ils vous ont normalisé.
Nous sommes tous normalisateurs les uns par rapport aux autres, dites-vous, mais il y a des normalisateurs qualifiés.
C'est les plus dangereux, oh là là.
Et qui sont spécialement les psychiatres?
Si vous voulez, dans la mesure où c'est la médecine qui est essentiellement porteuse de ces techniques de normalisation, on peut dire que c'est la médecine qui est à la fois la science et l'institution reine dans une société comme la nôtre. À tous les carrefours des institutions de pouvoir, vous trouvez la médecine ou quelque chose comme la médecine. Elle a parasité le judiciaire, comme elle hante l'économie, comme elle est présente dans les contrôles démographiques, et cette espèce de médicalisation, ou de fonctionnement, si vous voulez, du pouvoir à la norme médicale, est un des traits des sociétés modernes. Regardez, par exemple, maintenant, tout de même, l'espèce de sensibilité des gens à certaines exigences disciplinaires, qui étaient évidentes encore il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, et que les gens ne supportent plus maintenant. Regardez ce qui s'est passé dans la vie sexuelle. Ça nous paraît absolument d'un autre âge.
Ça s'est passé en 5 ans.
Ces disciplines de la vie sexuelle qui pesaient un peu sur tout le monde, mais disons surtout sur les jeunes filles et de certains milieux, le milieu de l'époque. Regardez en 5 ans, 7 ans. Comment maintenant ce sont des disciplines. Et tout ce qui était lié à tout ce qui apparaissait comme ça, comme une espèce d'évidence morale qu'on ne pouvait pas ni très bien situer, ni tout à fait contourner, maintenant, ça apparaît rétrospectivement comme une espèce de contrainte historique parfaitement située, et qu'on peut très très bien repérer. Et puis, voilà, c'est ce travail-là qu'il faut continuer à faire. Rendre visible le pouvoir, parce que c'est vrai que le pouvoir dans les sociétés actuelles est un pouvoir relativement invisible, est un pouvoir relativement diffus. Le problème du pouvoir sous l'Ancien Régime, c'est au contraire de se rendre visible. Il était si lointain et il était si lacunaire que le roi, quand il se présentait, était obligé de faire autour de lui toute une cérémonie qui s'appelait précisément l'étiquette et le protocole. C'était les rituels qui rendaient le pouvoir visible. Au contraire, depuis le 19e, avec les hommes politiques qui ont des vêtements gris et des manteaux noirs, le pouvoir n'est plus visible. Eh bien, tout comme le problème de la critique politique au XVIIIe siècle, c'était de montrer que ce roi, si intouchable au milieu de ses rituels et de ses éclats, pouvait parfaitement être atteint, touché et détruit, eh bien, de la même façon, la critique politique actuellement, ça consiste à faire en sorte que ce pouvoir qui se cache, ce pouvoir qui est tapis, ce pouvoir qui nous traverse sans que nous le voyons, eh bien, le faire apparaître comme avec un colorant. L'analyse philosophico-politique doit être actuellement un colorant du pouvoir.